Bien, on va prier pour commencer. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour le privilège que nous avons de te connaître. Et merci de ce qu'un jour il t'a plu dans ta bonté, dans ta grâce infinie. Alors que nous étions, comme la parole de Dieu le dit, errants comme des brebis perdues, tu es venu mourir pour nous. Seigneur, tu as donné ta vie. Qui oserait donner sa vie même pour quelqu'un de bon? Mais toi, tu as donné ta vie alors que nous étions encore pécheurs. Merci, Seigneur, de ce que dans ta grâce, tu t'es fait connaître à nous et tu nous as donné par la grâce du Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, de reconnaître notre état de perdition éternelle et de nous tourner vers toi, afin que, en croyant en ta parole, nous ayons la vie éternelle. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as placés dans ce monde afin de proclamer, Seigneur, ta parole et d'annoncer ta providence jusqu'à ce que tu reviennes. Et ce matin, nous voulons nous réjouir non seulement de ce que nous avons été sauvés, mais de ce que tu nous utilises comme des ouvriers dans ta moisson. En sorte que, Seigneur, en ce jour glorieux, Seigneur, quand l'heure sonnera et la trompette sonnera, Seigneur, que nous puissions ensemble, nous qui serons encore vivants, ainsi que ceux qui seront déjà morts, que nous puissions nous retrouver autour de toi pour célébrer l'éternité avec toi. Quel Dieu merveilleux tu es. Merci, Père Saint, pour tes grâces infinie. Merci Seigneur pour ta bonté, ta providence, Seigneur incomparable. Béni sois-tu Jésus. Merci ce matin Seigneur pour la belle neige que tu nous donnes. Seigneur, tu nous permets de vivre ces temps différents. Seigneur, ici au Québec, et nous nous réjouissons Seigneur. Gloire, honneur à toi. Béni Seigneur ton assemblée ce matin et conduis-nous au travers Seigneur de cet enseignement, de cet exposé ensemble, Seigneur, que nous puissions nous encourager mutuellement, ce d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Sois béni en Jésus-Christ. Amen. Bon matin, bon matin. Content de vous retrouver. J'ai le privilège de conclure, je pourrais dire en beauté, le livre qu'on a commencé il y a déjà plusieurs mois sur la providence. Et aujourd'hui, on parlera de la fin des temps, mais peut-être pas de la manière dont on a souvent entendu parler de la fin des temps, parce que souvent quand on parle de la fin des temps, on voit les différentes approches, les différentes interprétations sur la fin des temps. On dit quels sont ceux qui sont des à-mille, des pré-mille. C'est pas, on n'est pas dans ce détail aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rester dans notre même objectif depuis le début de cet enseignement sur la providence et on va voir comment est-ce que la providence de Dieu qui s'est manifestée au travers Christ et qui nous a permis aujourd'hui de nous rassembler ici venant de différentes nations, de différents endroits, de différents arrière-plans, que ce soit au niveau familial, au niveau sociétal, au niveau professionnel. Nous nous rassemblons à cause d'une seule chose, de la providence de Dieu. Et la fin, en quelque sorte, c'est vraiment le moment privilégié où nous pouvons contempler la providence de Dieu. Donc ce matin, j'aimerais nous conduire dans la dernière partie du cours. La dernière partie du cours, c'est vraiment la manière dont c'est intitulé, la dernière partie. Donc, ceux qui ont le livre, vous l'avez probablement déjà vu. Donc, c'est la session 9, Exploit final de la providence divine. Comment est-ce que la providence divine va se manifester à la fin? Et je vais couvrir en réalité trois blocs. Le premier bloc, c'est le triomphe des missions et retour de Christ. Donc, ça va être le premier bloc que je vais couvrir. Ensuite, je vais couvrir un deuxième bloc avant de faire la conclusion. Donc, voilà en fait les grandes lignes aujourd'hui. Donc, le triomphe. Dans un premier temps, quand on parle de la fin des temps, et Jésus l'a proclamé, l'a dit avant son départ, vous entendrez parler des conflits un peu partout. La première partie, ce sont les conflits qu'on voit, et aujourd'hui, triste est de constater qu'on n'a pas besoin d'aller, en fait, on n'a pas besoin de chercher sur Internet profondément. À chaque coin de rue, on entend qu'il y a un conflit. On connaît les conflits majeurs aujourd'hui, mais ça, ce n'est que la pointe du iceberg. Ce qu'on entend, Ukraine, le Moyen-Orient, le Yémen, le Congo, ce ne sont que des pointes du iceberg parce qu'en réalité, un peu partout dans le monde, si vous vous intéressez à la géopolitique, vous allez vous rendre compte qu'un peu partout dans le monde, le torchon brûle. Et même à l'intérieur des États, juste au sud de chez nous ici, donc on voit qu'ils ne sont pas l'élément, peut-être la petite flamme pour déclencher quelque chose de majeur, même aux États-Unis, ne semble plus être si loin que ça. Et en voyant tout ça du Québec et du Canada, on peut se dire, ouh, on est loin de tout ça. Mais pas vraiment, parce que la chose qui peut tout de suite déclencher un conflit, qu'il soit interne ou qu'il soit plus généralisé, est assez grand. Maintenant, devant ces conflits, comment nous nous sentons? Et je sais que certains parmi nous ont vécu une angoisse, comme s'ils étaient américains, avant le 5 novembre, parce qu'on se disait, qui va rentrer à la Maison-Blanche et qu'est-ce qui va arriver? Bon, on a survécu. Mais pour le moment, on attend le 20 janvier. L'autre angoisse, quand le nouveau président va prendre les pleins pouvoirs, qu'est-ce qui va arriver? Voici autant de questions que nous sommes en droit de nous poser et en tant qu'êtres humains, nous faisons bien de nous poser ces questions. Mais par quoi? Par contre, ce que nous ne faisons pas bien, c'est de nous inquiéter. C'est pourquoi le deuxième élément, c'est la confiance. Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Je ne suis pas en train de dire que le monde ne doit pas s'inquiéter. Je dis, nous, enfants de Dieu, ne devons pas nous inquiéter. Le monde doit s'inquiéter. Le monde court à sa perte et le monde doit s'inquiéter. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter. J'aime bien comment Piper rend Romains 8, 9 à 30. Voici comment il le dit dans une version. « Toute personne connue du Seigneur comme étant précieuse et lui appartenant dès avant la création du monde a été prédestinée pour la gloire et la félicité. Et tous les prédestinés sont appelés, et tous les appelés sont justifiés, et tous les justifiés sont sanctifiés, et tous les sanctifiés sont infailliblement glorifiés. » J'aime le mot « infailliblement ». Ça dit, ce n'est pas quelque chose qu'on attend en disant « peut-être que ». On n'est pas dans le « peut-être que », on est dans la certitude que « infailliblement glorifié ». Je ne suis pas en train d'attendre qu'un jour je vais être glorifié, assis à la droite de Dieu le Père avec le Seigneur. Ce n'est pas ça que j'attends. Ce que j'attends, c'est une certitude. C'est une certitude bien-aimée. Voilà pourquoi les conflits ne devaient pas tant que ça nous inquiéter. Ça devait inquiéter le monde, mais pas nous. Parce que nous ne sommes pas inquiétés par ces choses, sachant en qui nous avons placé notre confiance. Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Nous ne devons pas nous inquiéter parce qu'en fait, on a un rendez-vous divin. On a un rendez-vous divin. Dieu permettra qu'un jour, et ça peut-être, j'aime tellement de versets dans la Bible que je ne sais plus lequel j'aime le plus que d'autres, parce que ça c'est un de mes préférés, quand la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront les premiers, et ensuite nous les vivants. Moi, je pense que possiblement que le Seigneur pourrait arriver encore alors que je suis encore vivant. Et si ça arrive, je ne connaîtrai pas la mort. Mais tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier, et ceux qui seront vivants vont se rassembler avec le Seigneur et nous vivrons l'éternité. Oh, tu es digne. Tu es digne, crie au Christ, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu ton, pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Wow. Wow. Dieu a sauvé les hommes par le sacrifice du sang de Jésus, les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Ah, imaginez tout simplement comment ça va être à ce rassemblement, ce grand rassemblement. Mais en attendant ce rassemblement, il faut être conscient que beaucoup de chrétiens de par le monde vivent des tribulations. Peut-être que, en tout cas, j'aime pas beaucoup parler du Québec. C'est chez nous, mais j'ai entendu cette semaine qu'il se peut qu'on interdise la prière dans les lieux publics. Ça, ce n'est pas juste, c'est quelque chose qu'on pense, que le gouvernement pense réellement peut-être mettre en place. Peut-être que nous disons, nous pouvons voir ça d'un bon œil parce que nous pensons à certaines religions en particulier, mais la prière est la prière. Quand cela sera interdit, il n'y aura pas un laissez-passer pour certaines religions. Donc aujourd'hui, quand on parle des pays islamiques ou quand on parle de la Chine ou des pays communistes, on voit la gravité de la persécution. Mais bien aimé, il se peut qu'on ne soit pas si loin de cette réalité même ici. C'est pourquoi il faut être conscient que oui, on est dans des temps difficiles de tribulation. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour vous, bien-aimés, c'est que la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Si nous, nous pouvons être liés comme individus qui proclamons la parole de Dieu, elle, au contraire, n'est pas liée. Et l'apôtre Paul le savait bien, bien, bien avant nous. Voici comment l'apôtre Paul disait en son temps, « Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée, 2 Tite 2:9. Waouh! La parole de Dieu n'est pas liée. Et regardez sur Internet combien de milliers de personnes se donnent au Seigneur aujourd'hui, alors que ce sont des gens qui vivent dans des endroits réputés être très très difficiles pour la pénétration de l'Évangile. Allez en Chine et vous compterez dans l'église clandestine des centaines et des milliers de convertis et chaque jour. Allez dans les pays islamiques et vous allez voir comment Dieu agit puissamment. Parce que oui, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, un peu partout dans le monde qui proclament l'Évangile sont parfois liés au point que leur vie comme et l'apôtre Paul ici le dit, il était lié comme un malfaiteur et il est mort en proclamant l'Évangile, mais il était conscient que la parole de Dieu n'est pas liée. Quand cette œuvre de proclamation de l'Évangile aura atteint son paroxysme, et il aura atteint son paroxysme quand nous aurons crié suffisamment fort, pour que les hommes, comme on vient de lire, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple sur la terre, aient entendu l'évangile de Jésus-Christ, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Et la fin viendra. Et aujourd'hui, parfois, on est inquiet parce qu'on se dit, ça fait quand même 2000 ans qu'il nous a raconté cette histoire. On ne voit pas grand-chose. Les générations passent et c'est comme c'est toujours pareil. On attend, mais ça ne semble pas venir. Est-ce que le Seigneur reviendra vraiment? Ce n'est pas en 2024 qu'on se pose la question. Même les chrétiens du premier siècle se sont posé la question et l'apôtre Pierre avait une réponse pour eux et cette réponse est aussi vraie pour nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien-aimés, j'aime souvent dire que Souvent, on est tellement inquiet de ce que le Seigneur tarde à revenir parce que on pense qu'il faut que le Seigneur use de patience afin que tous les hommes soient sauvés. Mais bien-aimé, comme un des prophètes le disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que il n'est pas nécessaire que le Seigneur vienne avant que tu passes devant le trône. Le jour où ta vie prend fin sur cette terre, c'est dans cet état que tu passeras devant le trône, même si le Seigneur vient dans 20 millions d'années. Parce que tu ne peux plus rien faire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc n'attends pas que le Seigneur, la trompette sonne, qui te donne enfin le signal. N'attends pas ce moment-là. Parce que ce moment peut arriver aujourd'hui, ce matin. Ce matin, ce moment peut arriver. Je peux ne jamais descendre de cette chair. Alors, on dira, Basile est mort en prêchant l'évangile, en enseignant la parole. Gloire à Dieu. Vous pouvez ne pas me voir la semaine prochaine. Et vous allez entendre, Basile, vraiment Basile, il était avec nous dimanche. Oui, c'est comme ça la vie, bien-aimé. Voilà pourquoi il n'y a pas un seul instant que nous pouvons penser que nous avons encore du temps. Si tu entends la voix du Seigneur, c'est l'heure favorable, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas un jour, c'est aujourd'hui. Mais puisse le Seigneur nous donner la grâce de voir ce jour et de dire que nous avons gardé la foi jusqu'à la fin. En réalité, on fait une erreur théologique importante. Quand on parle de la fin du monde, dans la perception qu'on communique, c'est comme si c'était la fin. Mais la fin n'est pas la fin, la fin est un commencement. Parce que quand les gens nous entendent parler de la fin du monde, bon, c'est sûr que certaines communautés ne nous ont pas aidés comme les témoins et compagnie, mais quand les gens nous entendent parler de la fin du monde, on leur fait peur, littéralement. Parce que c'est comme si tout est fini. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que la Bible présente la fin du monde. La Bible présente la fin du monde comme un commencement. Un commencement pour les gens qui croient, mais aussi un commencement pour les gens qui ne croient pas. Même les gens qui ne croient pas, ce ne serait pas la fin. Parce qu'ils vont réellement vivre. Les gens qui ne croient pas ne vont pas être anéantis, point final. Sinon, c'est facile. Tu vis comme tu veux dans ce monde. Le jour où les chrétiens commencent à vivre une nouvelle vie, toi, tu es anéanti, tu n'existes plus. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Je profite de mes 80, 60, 70 ans ici. Merci, bonsoir. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible annonce la fin du monde. La Bible annonce la fin comme étant en réalité un commencement, et un commencement pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens, naturellement dans deux états différents. Les uns pour la félicité éternelle avec leur Dieu, les autres pas pour l'anéantissement total, les autres pour la privation totale de la présence de Dieu de façon consciente, claire dans leur esprit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire semblant, nous devons aller jusqu'au bout. Le Seigneur, des fois, vous savez qu'on a des amis français qui sont arrivés. Actuellement, il doit être quelle heure en France? Il doit être probablement autour de 13h, 14h dans ce coin-là. Et si vous habitez en Chine, on est quasiment comme 12h, 13h comme fuseau horaire, ce qui veut dire qu'actuellement, ils sont déjà la nuit, vers 9h du soir, 10h du soir. Le rassemblement que le Seigneur provoquera par sa venue, c'est un rassemblement global. Quelle que soit l'heure, dans quel fuseau horaire tu te trouves sur la planète, quand la trompette sonnera, tu seras présent au rendez-vous. Et je vous ai déjà dit que c'est un de mes versets préférés. Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Waouh! Waouh! Comment ça se fera? En cet instant et en un clin d'œil, nous allons ressembler exactement à Christ comme il était ressuscité. Aujourd'hui, avant, quand j'étais un peu plus jeune, je pouvais faire n'importe tout ce que je voulais. Des fois, je pouvais ne pas dormir 3-4 nuits d'affilée. C'était pas grave. Je pouvais jeûner 24, 48, 112 heures. C'était rien. Mais maintenant, des fois, quand je me réveille le matin, à plus de 50 ans, ça se sent dans quelques articulations. Et je sais qu'on a quelques bien-aimés frères et sœurs avec un âge vénéré. Et c'est toujours un miracle chaque matin de se lever et de se voir en santé. Mais, bien-aimés, quelles que soient les afflictions physiques que vous endurez dans votre corps, sachez-le, quand la trompette sonnera, il n'y aura plus de douleur. Vous allez être comme dans votre tendre jeunesse. Rappelez-vous quand vous étiez capable de veiller 5 nuits d'affilée, de ne pas manger ou de manger n'importe quelle cochonnerie et de vous sentir en forme le lendemain matin. C'est dans cette forme plus qu'olympique que vous allez avoir, mais mieux encore, ce n'est même pas un corps naturel que vous allez hériter. Vous allez hériter du même corps qui est à l'image de celui que Christ avait à la résurrection. Et le Seigneur va le faire dans une démonstration de puissance et de force avec tous les anges qui vont accompagner le Seigneur à son retour. Déjà à sa première venue, les anges l'avaient précédé et ont chanté et ont annoncé aux bergers qu'aujourd'hui dans la ville de David, le Sauveur était né. Mais, bien-aimés, que vous soyez morts ou vivants, vous allez assister au spectacle. Vous allez assister au spectacle parce que le verset nous dit quoi? Les morts en Christ, comment? Ressusciteront dans quel ordre? Les premiers. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous qui serons vivants, waouh! Nous allons assister au spectacle avec le Seigneur. Donc, comme je vous disais, il ne s'agit pas d'un anéantissement. Les gens, ceux qui ne croient pas au Seigneur seront conscients. C'est ce que Apocalypse 14, versets 10 et 11 nous dit. Nous devions être clairs dans notre prédication, dans notre annonce de l'Évangile, que les gens ne pensent pas que, non, le Seigneur va appuyer sur un bouton et ils seront tout simplement anéantis. Ils ne sentiront rien. Ou même s'ils sentent quelque chose, c'est un peu comme quelque chose qui va arriver en un flash. Ils vont le sentir un seul coup, ils vont avoir mal et c'est fini. Non, la Bible nous dit que ça va être quelque chose de très conscient. C'est un tourment conscient et éternel. Voilà pourquoi ta responsabilité, ma responsabilité, notre responsabilité, c'est de faire quoi? D'avertir, de supplier et de prier. Nous ne pouvons pas ne pas dire. Les disciples, j'aime bien la remarque de Pierre, quand ils ont été arrêtés, ils ont dit, arrêtez de parler au nom de ce Jésus. Ils ont dit, regardez vous-même. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens de ne pas proclamer ce que nous avons vu et entendu? Non, ça ne fait pas du sens. Est-ce que vous avez goûté le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un ici qui dit, moi j'ai goûté et je sais combien le Seigneur est bon? Ok. Bien-aimé, si tu as goûté, tu sais combien le Seigneur est bon. N'est-ce pas une belle opportunité de le proclamer, de le dire, de le crier et dire aux autres, viens avec moi, viens goûter combien le Seigneur est bon. Viens goûter combien le Seigneur est bon. Mais on ne fait pas ça juste. On n'annonce pas un évangile de prospérité. Nous ne sommes pas en train de dire aux gens, venez, tous vos problèmes vont disparaître. Devenez chrétien et vous allez être, vous deviendrez riche. Devenez chrétien, vous ne serez plus malade. Devenez chrétien, non, non. Le Seigneur ne nous promet pas que nous ne vivrons pas dans les afflictions. Le Seigneur nous promet une chose, c'est que dans toutes nos afflictions, il sera toujours avec nous. C'est la seule chose que le Seigneur nous promet. Donc, bien-aimés, prenons notre courage à deux mains et avertissons tous ceux qui sont autour de nous. Mais mieux encore, supplions. Supplions. L'apôtre Paul aimait dire qu'il a, il a tellement le fardeau des églises qu'il porte en lui comme un fardeau, comme les douleurs de l'enfantement. Et pour nos sœurs qui sont dans la salle et qui ont connu l'enfantement, vous pouvez vous imaginer un peu de quoi il s'agissait quand l'apôtre Paul dit qu'il sent en lui le fardeau de ses frères qui ne sont pas encore donnés au Seigneur. Il sent ce fardeau aussi lourd qu'une femme peut sentir les douleurs de l'enfantement. Voici pourquoi nous devons continuer à supplier et à prier. J'éprouve une grande tristesse, dit l'apôtre Paul aux Romains, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Romains 10, le verset 1. Et si vous lisez la suite de Romains 10, vous allez comprendre que c'est tout un processus pour être sauvé. Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il de prédicateur si une personne est envoyée selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Voilà ce que la Bible nous dit. Est-ce que vous vous sentez envoyé par le Seigneur? Est-ce que vous entendez la voix du Seigneur ce matin qui dit « Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? » Et vous, et nous, et moi, de répondre « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est ça le message de la fin des temps. Le message de la fin des temps, c'est que venez, soyons nombreux autour des noces de l'agneau. Donc, après cette fin qui n'est pas une fin, qu'est-ce qu'il y a après? Parce que l'après, c'est comme un mystère. Parce qu'on dit, ok, la fin, ce n'est pas la fin. Donc après, c'est combien d'années? Il y a des gens qui sont éparpillés et ont perdu de l'énergie à compter le nombre d'années qu'on va vivre après. C'est inutile. On va vivre une infinité d'années. On va vivre l'éternité. Aussi simplement que cela paraît, on va vivre l'éternité. Donc, comment cette éternité, qu'est-ce qui caractérisera la vie du chrétien pendant cette éternité? Donc, nous allons ouvrir une petite parenthèse sur cet après, à quoi il va ressembler. Parce que si je vous dis, pour les fêtes de fin d'année, je vous donne un billet pour le sud, hors du froid. Un billet tout, vous connaissez les fameux programmes tout inclus. Vous ne payez rien. Vous payez une fois et vous arrivez dans le sud, tout inclus. Si officiellement je vous remettais le billet, la prochaine question qui va vous venir à l'esprit, c'est dire, waouh, c'est dans quel hôtel? On va où? C'est en République, au Mexique, à Cuba ou dans les au Jamaïque. Donc, vous allez commencer par être excité, à savoir à quoi ça va ressembler. C'est un hôtel quoi? 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles? Je ne sais pas comment le Seigneur compte les étoiles, mais s'il y avait un nombre d'étoiles, je ne pense pas qu'on sera en mesure de les compter. Alors, la deuxième partie aujourd'hui, c'est que cet après fin des temps, qui n'est pas une fin mais qui est un commencement, va être caractérisé par de nouveaux corps, un nouveau monde et une satisfaction éternelle en Dieu. C'est ça qui nous attend. Est-ce que vous êtes satisfait de votre corps aujourd'hui? Honnêtement, ne levez pas la main. Chacun répond pour lui. Êtes-vous satisfait de votre corps? Toutes les dimensions de votre corps. Il y a certains parmi vous qui disent, oui, dans ma tendre jeunesse, j'étais très satisfait de mon corps parce que j'étais... Quand je passais, tout le monde se tournait pour regarder. Et plus le temps passe, plus vous êtes peut-être un peu de moins en moins satisfait de votre corps. Il y en a qui n'ont jamais été satisfaits de leur corps. Et cela donne des théories un peu bizarres aujourd'hui. Vous connaissez la théorie du genre et tous les corollaires que cela implique aujourd'hui dans notre société. Il y a certains qui n'ont jamais été satisfaits de leur corps. Mais si vous êtes chrétien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le corps que vous avez, l'apôtre Paul l'appelle une tente. C'est comme une tente que vous avez de façon temporelle et temporaire. C'est quelque chose que vous... C'est une habitation qui est limitée dans le temps. Les meilleurs parmi nous vont pouvoir utiliser cette tente-là pendant 80, 90, 100. Si vous dépassez 100, vous êtes dans le livre des records. Donc, c'est vraiment trop court. Le corps que vous possédez, sa durée de vie est trop limitée. Mais nous allons hériter d'un corps plus grand que cela. Mais pour que cela arrive, il nous faut une première chose. Vous savez, souvent, pour que quelque chose vraiment prenne, il faut un catalyseur, il faut quelque chose, un phénomène qui déclenche la situation. Et le phénomène qui va déclencher cette transformation, c'est quand nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire. Si les gens, si les bergers ont cru voir la gloire du Seigneur à sa naissance, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Si ceux qui étaient présents, témoins du baptême de Jésus, qui ont entendu une voix retentir du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », s'ils croient avoir vu la gloire du Seigneur, ils n'ont rien vu. Si les disciples qui ont vu le Seigneur sur la montagne de la Transfiguration et qui étaient tellement excités au point de vouloir en faire un lieu d'habitation pour toujours, si c'est ce qu'ils pensent avoir vu la gloire du Seigneur, ils n'ont rien vu. Si tous les disciples qui étaient rassemblés le jour de l'ascension ont cru voir la gloire du Seigneur quand il était enlevé de leurs yeux pour rejoindre la félicité céleste, ils n'ont rien vu. Quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire, là ils verront qui est véritablement le Seigneur. C'est notre bienheureuse espérance. C'est comme ça que l'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée 4. Désormais, l'apôtre Paul qui écrit à son fils bien-aimé, Timothée, parce qu'il sentait sa fin physique venir. Normalement, quand vous sentez votre fin physique venir, vous pouvez être angoissé de ce qui vous attend de l'autre côté, le fameux au-delà. Mais ce n'est pas ce qui était dans l'esprit de l'apôtre Paul. Voici ce qui était dans l'esprit de l'apôtre Paul. Il le dit, désormais la couronne de justice, désormais, c'est-à-dire que maintenant, quand ce corps physique, je vais l'abandonner sur la terre, voici quelle est mon espérance. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et honnêtement, la première fois que j'ai lu ce texte, j'ai été plus qu'émerveillé. J'ai été plus qu'émerveillé, pas parce que je me voyais en apôtre Paul, mais parce que je me disais, l'apôtre Paul, il a le droit de dire ce qu'il dit. Quand tu lis l'histoire de l'apôtre Paul, tu dis, waouh! Honnêtement, c'est un homme de Dieu. Non, ce n'est pas réservé à des hommes spéciaux de Dieu. Cette promesse, elle est réservée à tous ceux qui ont aimé l'avènement de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit, non seulement à moi. L'apôtre Paul prend le soin de le préciser parce que je suis convaincu qu'il était conscient que les gens vont dire « Oui, c'est normal, c'est toi l'apôtre Paul qui parle, c'est toi qui écris, c'est normal que cette couronne te soit destinée. Et qu'adviendra-t-il pour nous ?» Alors il répond, il dit « Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alors, La seule chose, notre seule prière ce matin devrait être « Montre-moi ta gloire et dissipe mes ténèbres. » Montre-moi ta gloire et dissipe mes ténèbres. Est-ce que nous voulons voir la gloire du Seigneur? Quand la verrons-nous cette gloire? Dans sa plénitude, c'est à son retour. Alors notre prière, c'est « Dissipe mes ténèbres jour après jour parce que je désire voir ta gloire. » Je veux voir ta gloire. Pour cela, viens dissiper les ténèbres. Donc, première chose, nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire. Deuxième chose, nous serons totalement transformés. Dès que vous le voyez, c'est comme si vous êtes frappé par un éclair. Vous changez complètement. Vous voyez, j'aime les spectacles de des gens qui changent des habits assez rapidement. À peine vous avez le temps de cligner les yeux, oh, il a une nouvelle tenue toute neuve. Je me dis, comment c'est possible? Ce jour-là, ça va être encore plus rapide que ça. Dès que vous voyez le Seigneur, vous êtes transformé. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Wow. En réalité, si vous croyez savoir ce que vous serez demain, vous vous trompez. Ce que vous serez demain, vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que vous serez vraiment demain. Si Dieu pouvait vous ouvrir ne serait-ce qu'une fraction de seconde les yeux pour voir dans quel état spirituel, physique, vous serez demain, vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Tout ce qui était pour moi des gains, je les considère comme une perte. Et je les considère même comme de la boue. » Afin de faire quoi? De gagner Christ. Parce qu'il avait, par la grâce de Dieu et par l'action du Saint-Esprit, il avait le privilège, comme lui-même le dira, de comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu. Et ce mystère caché, c'est qu'il n'a même aucune idée de ce qu'il attend véritablement après. Bien-aimés, et c'est ce qui nous attend tous comme enfants de Dieu. En un instant, pas par étape. Je vous ai dit que mon verset, c'est « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Et en un instant, parce qu'il n'y a pas un mot plus rapide pour dire ça, en un instant, nous serons transformés. Ce n'est pas comme l'histoire de la chenille qui devient papillon là. Ce n'est pas comme ça va se passer. Dès que vous verrez le Seigneur, vous serez transformés. Alors, à quoi nous sert la sanctification? Puisque dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il suffit de le voir, on va être transformés. Parce qu'en un instant, nous serons transformés n'est que l'aboutissement d'une œuvre que Christ a commencée le jour où vous avez donné votre vie à lui. Et cette œuvre s'appelle une œuvre de sanctification. Et elle se fait par étapes. Elle se fait par étapes. Et ceux qui me connaissent et ceux avec qui j'ai échangé déjà sur ce point, vous savez que quand moi je suis devenu chrétien, j'avais 14 ans, mais je venais d'un milieu plus ou moins catholique. Okay. On allait à l'église la veille de Noël et le vendredi saint. Bon, on était catholique, on était bien heureux. Et je commençais à m'intéresser aux choses de Dieu et je suis devenu chrétien. Et quand je suis devenu chrétien dans l'église baptiste, j'ai tellement compris beaucoup de choses. À 14 ans, on est encore dynamique, jeune, fonceur. Après 2 ans, j'avais accumulé tellement de connaissances sur Dieu, sur la parole de Dieu, que j'ai commencé par penser que dans quelques années, mes pieds ne toucheront plus le sol. J'étais tellement convaincu parce que je me dis, si j'ai réussi à faire tout ça en 2 ans, imaginez en 30 ans. Aujourd'hui, on ne parle pas de 30 ans, on parle de 30 ans et plus là. Imaginez en 30 ans, j'étais convaincu que quand vous me verrez marcher, mes pieds ne seront plus au sol. Je vais planer, littéralement. J'étais vraiment convaincu, je ne plaisante pas, j'étais convaincu que je vais atteindre un niveau Mais j'ai réalisé tout simplement qu'à chaque fois que je m'approche, c'est encore pire. À chaque fois que je m'approche, c'est encore pire parce que je vois combien Dieu est grand et combien je suis petit. Je vois combien Dieu est saint et combien je suis infidèle, rebelle et incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Au lieu de ne plus voir mes pieds au sol, maintenant j'ai l'impression que mes pieds sont complètement enfoncés dans le sol. Et ma prière, c'est que le Seigneur, jour après jour, vienne compléter cette œuvre de sanctification. Je veux me trouver misérable chaque jour encore plus. Chaque jour, je vais être plus misérable que je l'étais la veille. Pas parce que je suis dans la misère, parce que je me laisse abandonner et je me laisse dans le piège du péché de façon permanente, mais parce que je réalise combien il n'y a rien à moi qui soit suffisamment bon pour accoter la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi l'œuvre de sanctification est une œuvre qui mérite d'être complétée. Et cela va se solder en ce jour-là par le couronnement parfait d'une vie passée à lutter contre le péché. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. Pensons-nous véritablement que nous faisons tout pour ne pas pécher? Ou que, comme ici, on est une église reconnue pour son message sur la grâce, est-ce que nous prenons la grâce comme un lit sur lequel nous nous endormons et on dit, quoi qu'on fasse, on est pécheur. Anyway, que veux-tu que je fasse? Je suis pécheur, alors je vais attendre tout simplement. Non, c'est parce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu enseigne que nous devons lutter contre le péché. Lutter de façon consciente contre le péché. Est-ce que nous allons atteindre un état de non-péché? Non. Mais Dieu veut voir cet esprit combatif de ce que nous ne voulons pas vivre dans le péché. Et lui s'occupe de faire de cette personne, de cette femme, de cet homme imparfait, il s'occupe de faire la transformation nécessaire. Nous connaîtrons un bonheur parfait qui ne cessera d'augmenter. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la capacité humaine de penser. Parce que, des fois, quand vous êtes heureux, des fois, vous vous posez la question, est-ce que je peux être plus heureux que ça? Des fois, vous vivez une situation tellement, waouh, vous dites, waouh, waouh. C'est la félicité. Et c'est difficile pour le cerveau humain de penser qu'il peut avoir quelque chose encore meilleur que ce que vous vivez comme le paroxysme de la félicité. Mais la Bible dit que c'est possible. Pas maintenant, mais quand le Seigneur viendra. Parce que sinon, vous pensez, l'éternité risque d'être long. Hein? Si c'était monotone. On connaît un bonheur et c'est un bonheur, c'est le même bonheur. Je vous parlais du Sud, toutes les gens étaient excités tantôt quand je parlais du Sud. Une semaine dans le Sud. Mais si je vous offrais un an dans le Sud, il y a beaucoup qui vont revenir au Québec. Vrai? Parce que trop, c'est comme pas assez. Ça veut dire que si tous les jours, vous avez ce tout inclus, vous avez accès à tout, en ce moment, on dit non, on revient au Québec pour la poutine. Parce que on n'est pas capable. Est-ce que vous m'entendez?
Non.
Bon, je vais essayer de trouver la solution. Merci. Ouais.
C'est bon.
Est-ce que vous m'entendez maintenant?
Oui.
Ok, parfait. Donc, vous allez être excité à vouloir revenir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de vivre dans une monotonie. Mais si vous pouvez aller dans une situation qui change chaque jour, alors vous serez excité à rester. Et c'est ce que le Seigneur nous promet. Il ne nous promet pas un bonheur monotone, mais il nous promet un bonheur qui va continuer à augmenter. Au point que nous allons chaque jour découvrir quelque chose de nouveau.
Chaque jour, quand vous sortez le matin, ce n'est pas pareil. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais connu la veille. Et ça va aller comme ça jusqu'à l'éternité. Voilà ce que le Seigneur promet. Vous allez connaître, nous allons connaître un bonheur parfait qui ne cessera d'augmenter. Et le Seigneur, quatrième point que je vais aborder, l'univers sera affranchi de la servitude. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que, comme je disais tantôt, notre corps physique, des fois, nous fait souffrir. Et c'est l'apôtre Paul qui, écrivant aux Corinthiens, dit ceci dans Corinthiens 15, les versets 42 à 44, « Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Le corps est semé méprisable, il ressuscitera glorieux. Il est semé infirme, il ressuscitera plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscitera corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. » Voici un peu ce que le Seigneur nous promet. Nous ressusciterons avec le Seigneur et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, encourageons-nous avec cette vérité et l'univers sera complètement renouvelé. Des fois, moi je suis un scientifique de formation. Comme scientifique de formation, j'ai des fois des combats que peut-être d'autres chrétiens n'ont pas. C'est que j'aime calculer. Et ça, ce n'est pas bon toujours. Je me dis, OK, depuis que la Terre existe, les chrétiens, si on devait les mettre dans un univers, est-ce qu'on ne serait pas trop nombreux? Est-ce que vous avez jamais réfléchi à la question? Moi, c'est une question qui, des fois, me torture, sérieusement. Je dis, OK, si vraiment Dieu ressuscite tous les mondes, tous les chrétiens, on va être serrés. On va vivre les uns sur les autres. Donc, c'est une question véritable. Mais ça, c'est mon esprit tordu de scientifique qui me fait penser des choses comme ça. Parce qu'en réalité, l'univers dans lequel nous vivrons n'a rien de comparable avec celui avec lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, aucune comparaison possible. Aucune comparaison possible. Dieu sait quel est l'espace que ça lui prend pour accommoder l'ensemble de tous les croyants, de toutes les générations dans l'univers entier. Alors, ce n'est pas une question qui devait me torturer. Je devais laisser cela à Dieu. Et l'apôtre Paul le dit encore dans des mots beaucoup plus clairs que je peux l'exprimer dans Romains 8, 19 à 21. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est-à-dire que l'univers qu'on connaît, le monde, les arbres, les plantes, tout ça, ils attendent après nous. C'est ce que le verset dit. Ça dit que l'univers, tout ce que Dieu a créé dans l'univers, attend l'heure où les enfants de Dieu seront glorifiés. Parce que ça va être à la même heure que l'univers que Dieu a créé sera affranchi de la servitude du péché qui est rentré dans le monde. L'univers sera renouvelé. Tu vas voir une plante, c'est peut-être la même plante que tu connaissais avant, mais elle est complètement différente. Elle est nouvelle, elle est renouvelée. Ce n'est plus le même univers. Donc voici ce qui attend l'univers tout entier. Dieu sera au centre et au-dessus de tout. J'aime le passage dans Apocalypse, le dernier chapitre d'Apocalypse, où l'apôtre Jean dit qu'on n'aura plus besoin de soleil. Pourquoi? Pourquoi dans la Nouvelle Jérusalem, on n'a plus besoin de soleil? Parce que Dieu lui-même sera notre soleil. Dieu lui-même sera notre soleil. On n'a plus besoin de soleil parce que Dieu lui-même nous éclairera. On n'a plus besoin de soleil. Imaginez cet univers-là, c'est complètement quelque chose de difficile dans l'esprit humain aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. En conclusion, bien-aimés, ce matin, que devons-nous retenir du livre sur la providence? Contempler et savourer la providence de Dieu C'est ce à quoi nous nous sommes attelés et c'est l'appel que le Collège des Anciens a voulu vous lancer, nous lancer ensemble comme peuple de Dieu. La providence de Dieu, contempler et savourer la providence de Dieu comme chrétien chaque jour. Voici, s'il y avait un mot de la fin pour nous encourager en cette fin d'année, on utiliserait vraiment cette expression « contempler et savourer la providence de Dieu ». La providence de Dieu, c'est quoi? La providence de Dieu, c'est tout. L'étendue de la providence de Dieu comprend toutes choses. Il n'y a rien qui soit hors de la providence de Dieu. C'est pourquoi pour nous, chrétiens, le hasard n'existe pas. Parce que tout est le fruit de la providence de Dieu. Il n'y a rien qui puisse vous arriver qui soit un concours de circonstances. Il n'y a pas de concours de circonstances pour nous parce que ça s'appelle tout simplement comment? La providence de Dieu. Et la providence de Dieu, parfois, peut créer une certaine confusion. On peut penser que, puisque tout pour le chrétien, on peut dire que c'est la providence de Dieu qui le rend possible. On peut dire, est-ce que si quelqu'un n'est pas sauvé, c'est la providence de Dieu? C'est une question que je vous pose. Est-ce que si quelqu'un n'est pas sauvé, c'est aussi la providence de Dieu? Merci, Madame Paradis. Il dit, il nous donne la liberté. La providence de Dieu, c'est que Dieu a tout préparé, tout planifié, afin que nous puissions le choisir. Il dit, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Il ne dit pas, je te condamne à choisir la vie. Ce qui aurait fait notre affaire. Non, il ne dit pas ça. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et tu vivras. Donc, la providence de Dieu ne nous disculpe pas de notre libre arbitre et de notre libre choix. Dieu nous laissera toujours le choix. Il se tient à notre porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et l'ouvre, il entrera, il soupera avec lui et lui avec. Mais Dieu ne forcera jamais la porte de notre cœur. Un jour, on a demandé à un peintre qui avait représenté une porte d'une maison. Il n'y avait pas de poignée. Alors les gens ont dit que c'est un des plus grands peintres en Europe. Les gens viennent voir ça, il ne sait même pas dessiner une porte et il se fait passer pour le plus grand peintre du siècle. Alors, on lui pose la question, explique un peu ton œuvre d'art. Il explique, non, ce n'est pas une porte d'une maison, c'est la porte du cœur. Hein? Mais pourquoi c'est la porte du cœur? Vous voyez, cette porte n'a pas de poignée à l'extérieur, mais cette porte a toujours une poignée à l'intérieur. Le Seigneur ne peut jamais forcer la porte de ton cœur. Il va cogner aussi longtemps que c'est nécessaire. Ça s'appelle la providence de Dieu. Mais il ne forcera jamais. Alors, à toi, à l'intérieur de ton cœur, d'ouvrir. La poignée est de ton bord. La poignée de ta porte est de ton bord. Le but ultime de la providence de Dieu, c'est ce jour-là. Ou comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens, Dieu va préparer sa belle épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Il nous prépare afin que nous puissions paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien, mais plutôt irréprochable, irrépréhensible devant le Seigneur. Est-ce que ce matin nous entendons le Seigneur nous dire ces paroles qu'il a dites à ses disciples? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Certes, Philippe a dit... Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui a répondu, Philippe, pendant 3 ans j'ai été avec vous et tu ne m'as pas connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Pourquoi demandes-tu? Montre-nous le Père. Bien-aimés, est-ce que nous croyons que Jésus est en train de nous préparer une place à toi et à moi et que nous avons un rendez-vous divin? J'aimerais finir ce matin avec ce que le fait de contempler et de savourer la providence de Dieu, qu'est-ce que ça produit? L'auteur du livre que nous utilisons a résumé ça en 10 points et j'aimerais les lire pour finir. Donc, c'est vraiment le même texte que vous avez dans vos livres. Contempler cette providence suscite l'émerveillement et nous conduit dans les profondeurs d'une adoration authentique centrée sur Dieu qui exalte Christ et qui est imprégné dans la Bible. Voilà ce que contempler la providence de Dieu procure en nous. Deuxième point, contempler cette providence nous pousse à nous émerveiller de notre salut et nous rend humbles à cause de notre péché. Est-ce que vous voyez le grand cadeau que vous avez reçu? Et en même temps, vous mesurez votre indignité? Nous sommes rien et il a fait de nous des perles de prix, des perles précieuses à ses yeux. Contempler cette providence nous porte à considérer toutes choses comme faisant partie du dessein de Dieu, comme étant de lui, par lui et pour lui, à sa plus grande gloire. Contempler cette providence contribue à nous protéger des effets banalisants de la culture environnante et nous garde à prendre les choses de Dieu à la légère. Et cinquième, contempler cette providence nous aide à être patients et fidèles au milieu des circonstances les plus incompréhensibles de la vie. Et je crois que la série qu'on est en train de faire dans 1 Corinthiens nous montre combien il est important de ne pas banaliser toutes les choses qui nous entourent parce que la culture environnante peut avoir un impact assez important sur notre perception, la perception même de notre marche avec le Seigneur. Donc faisons attention, ne soyons pas on n'est pas dans un ermitage où on est isolé du monde, où tout ce qui se passe dans le monde n'a aucun impact et aucun effet sur nous. Le monde a un impact sur nous. Alors nous devons être conscients de cet impact et pouvoir être vraiment alertes et ne pas nous laisser envahir par cet impact-là, mais plutôt être ceux qui bouleversons le monde par notre vision des choses. Sixième point, contempler cette providence nous montre que le problème de la souveraineté de Dieu dans la souffrance n'en est pas un parce qu'elle a pour but de soutenir et d'intervenir à travers les afflictions. Et l'apôtre et le Jacques dirait dans son épître que les afflictions que nous pouvons connaître aujourd'hui sont en réalité des possibilités pour nous de faire exploser en quelque sorte la gloire de Dieu dans notre vie. Contempler la providence nous rend vigilants et résistants aux substituts centrés sur l'homme qui ne font que passer pour une bonne nouvelle. Contempler cette providence nous donne la confiance que Dieu a le droit et le pouvoir d'exaucer les prières pour que le cœur et la mentalité des gens soient changés. Et l'avant-dernier, contempler cette providence nous fait voir que l'évangélisation et la mission sont absolument essentielles en vue de la conversion des gens à Christ parce que Dieu fait d'elle un moyen ou des moyens qu'il emploie pour créer la foi salvatrice. Et enfin, contempler cette providence nous assure que durant toute l'éternité, Dieu sera de plus en plus glorifié à travers nous alors que nous serons de plus en plus satisfaits en lui. Bien-aimés, quand nous parlerons, j'espère, de la fin des temps, de la fin du monde, quand nous aurons l'occasion de présenter l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, à des gens autour de nous, J'espère que grâce à l'enseignement que nous avons au travers de toute cette série dans le livre de la Providence divine, que nous avons compris que, en réalité, la fin des temps n'est pas une fin, mais un commencement. Et qu'en réalité, dans l'éternité, nous vivrons avec Dieu, si du moins aujourd'hui nous avons choisi de donner notre vie entièrement à Jésus-Christ. Cette providence, c'est celle-là que je nous souhaite à tous et à chacun. Et puisque je vais prendre de l'avance pour 2025, s'il y a quelque chose, si je pouvais formuler des vœux pour nous en 2025, je vous dirais tout simplement, vivons dans la providence de Dieu à chaque instant de 2025 et le Seigneur sera glorifié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci de ce que, Seigneur, tu te fais connaître à nous alors que nous ne méritons même pas d'être, Seigneur, appelés enfants de Dieu. Mais ta parole dit avec raison que, alors que nous étions comme des brebis perdus, Christ est mort pour nous. Seigneur, nous savons aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu parce que, Seigneur, tu as opéré cette transformation en te révélant à chacun d'entre nous. Seigneur, de plusieurs manières et à des moments différents. Seigneur, ma prière pour ton Église ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est de nous accompagner à être vraiment centrés sur toi tous les jours de notre vie, à vivre la providence de Dieu comme étant la seule et unique alternative qui nous est offerte, que nous ne pouvons rien faire en dehors de la providence de Dieu, si du moins nous nous sommes donnés à toi. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin je prie afin que tu nous accompagnes tout au long de cette célébration, soit avec l'équipe de louanges, soit avec notre bien-aimé frère qui va nous apporter l'exposé biblique, soit avec tous les intervenants, Seigneur, à la technique, au son et tous ceux qui œuvrent à l'accueil, en sorte que, Seigneur, cette journée, encore nous puissions vivre encore d'autres effets de ta providence se manifestant avec puissance au milieu de ton assemblée ici à l'Église de l'Espoir à Longueuil. Et soit que cette providence, Seigneur, jaillisse, Seigneur, dans toutes tes œuvres au travers le monde et en particulier pour nos deux églises, sœurs Doxa et Sorel, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen.